Ce matin, la prédication que je vous partage est la reprise d'une prédication que j'ai donnée il y a quelques années. Pourquoi ce choix ? Je dois vous confesser d'abord que, comme je vous l'ai dit, je suis en vacances et je porte une certaine fatigue. Mais surtout, je suis persuadé que la parole de Dieu ne change pas et parfois il est bon de réentendre des choses qui ont été dites par le passé. Donc la prédication qui suit a été retravaillée à partir d'une prédication donnée lors d'un culte en commun entre plusieurs églises protestantes de Clermont-Ferrand. C'est peut-être bien d'avoir en tête ce contexte, mais je crois qu'elle est bonne à réentendre pour notre Église. Alors lisons à présent dans l'évangile de Luc au chapitre 9, à partir du verset 49. Jean dit alors, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons par ton nom et nous avons cherché à l'en empêcher parce qu'il ne te suit pas avec nous. » Il ne te suit pas avec nous. Jésus lui répondit, « Ne l'en empêchez pas, en effet, celui qui n'est pas contre vous est pour vous. » Voilà, un texte court. Tout petit récit, deux versets dans l'évangile de Luc, en passant. Et j'aimerais déjà vous poser une question. Comment est-ce que vous recevez ce texte ? C'est un texte que je trouve surprenant. Celui qui n'est pas contre vous est pour vous. Si ce n'est pas contre, c'est pour. Il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas de nuance. On ne peut pas être un peu pour, un peu contre, on ne peut pas être neutre. Celui qui n'est pas contre vous est pour vous. Et on voit comme ça une grande inclusion de la part de Jésus. Il prône un rassemblement très large. Ceux qui ne sont pas contre sont pour. Comment recevez-vous ce texte ? Peut-être qu'il vous fait du bien. Peut-être que ça vous fait du bien de voir une telle ouverture parce que vous ne comprenez pas pourquoi y a-t-il tant d'églises ? Pourquoi y a-t-il tant d'hésitation à se réunir toujours plus largement ? Les évangéliques, les protestants, les chrétiens avec les catholiques romains, les orthodoxes orientaux. Mais peut-être vous êtes un peu gêné par la largesse de Jésus. Jusqu'où pouvons-nous ouvrir ? On ne peut quand même pas tout accepter, non ? J'insiste. Posez-vous cette question. Comment recevez-vous ce texte ? Où est-ce que vous vous situez ? Que dit le texte ? Et d'abord, quel est le problème ? Quelle est la problématique ? On a un gars inconnu par les disciples, par Jésus aussi peut-être. Il ne leur dit pas « Non, c'est bon, je connais ce type ». Non, il ne les détrompe pas. Et cet homme, c'est un exorciste, c'est-à-dire qu'il chasse les démons au nom de Jésus. On n'est pas forcément familier de l'exorcisme à notre époque, dans notre contexte. Et mon propos, ce n'est pas de parler de cette pratique, de donner un enseignement là-dessus. Considérons simplement que cet homme, en chassant les démons, libère des personnes opprimées. En d'autres termes, il fait du bien à ses contemporains sur le plan spirituel. Le problème, c'est que ce n'est pas que cet homme chasse les démons. Ce n'est pas non plus qu'il le fasse au nom de Jésus. Le problème pour les disciples et pour Jean qui rapporte ça, c'est qu'il le fasse sans suivre Jésus avec eux. Avec eux, c'est avec le cercle des disciples les plus proches, avec ceux que Jésus forme pour être apôtres, pour être les piliers de l'Église. ce gars, il n'est pas avec eux, il ne suit pas Jésus de la même façon, avec le dévouement, avec le même dévouement, avec les mêmes contraintes. Et il s'autorise à faire comme eux. À ce moment de l'évangile, les douze sont en pleine formation. Jésus vient de les envoyer deux par deux avec l'autorité de chasser les démons et leur retour est difficile. Et quand on lit tout le chapitre 9, on voit qu'ils alternent échec et recadrage. Ils essayent de faire des miracles et ils n'y arrivent pas. Et ils se font recadrer par Jésus qui leur pose des questions auxquelles ils répondent à côté de la plaque. Et je crois que les disciples, les douze, à ce moment-là, ils ont conscience de l'exigence qu'il y a à suivre Jésus. Et cet homme qui vient là, il ne suit pas la même exigence. D'où vient-il ? D'où vient-il, ce gars ? C'est une bonne question. Il ne fait pas partie du cercle des disciples, mais quel cercle d'abord ? On voit en lisant l'évangile qu'il y avait plusieurs cercles. Il y a les douze qu'on connaît bien, qui sont autour de Jésus tout le temps là. Il y a aussi les 70 que Jésus a aussi envoyés en mission. Et puis il y a aussi cette grande foule qui suivait Jésus. On ne sait pas où se situe cet homme, mais je pense pouvoir dire qu'il connaît suffisamment Jésus. Et pour dire cela, je m'appuie sur un autre récit qu'on trouve dans les Actes des Apôtres, où on voit sept frères essayer de chasser des démons en invoquant le nom de Jésus. Si vous connaissez les Actes des Apôtres, c'est les fils de Séva. Et quand ils s'adressent à un démon pour le faire sortir, ce récit impressionnant, on voit le démon leur répondre « Jésus, je connais, mais vous, je ne vous connais pas ». Et ensuite, l'homme qui est possédé se jette sur eux et il leur met une raclée. On ne peut pas utiliser le nom de Jésus comme une formule magique. Le nom de Jésus n'est pas une formule magique. Agir au nom de Jésus, c'est se placer sous son autorité. C'est dire, ce n'est pas moi qui agis, mais c'est Jésus. Moi, je prie, mais c'est lui qui agit. C'est le mettre en avant, lui laisser toute la gloire. Et dans le récit parallèle à celui que nous avons lu dans l'évangile de Marc, Jésus ajoute, « Il n'y a personne qui puisse parler en mal de moi tout de suite après avoir fait un miracle en mon nom. » On ne sait pas qui est cet homme, mais ce miracle montre qu'il connaît suffisamment Jésus pour le laisser agir à travers lui. Regardons à présent ce que dit Jésus aux disciples, ce que dit vraiment Jésus. Et déjà, on peut souligner ce qu'il ne dit pas. Jésus ne dit pas, peu importe le chemin que vous suivez, tout se vaut. Pas besoin de s'attacher à une église, tout se vaut. C'est pas ça qu'il dit Jésus. Ce serait contredire l'exigence qu'il pose par ailleurs. Juste avant, Luc 9, verset 23, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » C'est exigeant de suivre Jésus. Et Jésus n'est pas en train de brader l'exigence qu'il pose sur les disciples. Mais Jésus dit, celui qui n'est pas contre vous est pour vous. Et quand il dit cela, c'est une deuxième chose que j'aimerais noter. Il pose clairement, il affirme que le chrétien a des adversaires. Il y a des gens qui sont contre vous. On est avec ou contre Jésus. Sur le terrain, il n'y a pas de zone neutre. Soit pour, soit contre. Et si on n'est pas contre, alors on est pour. Il y a aussi quelque chose qui est intéressant au niveau des mots qu'emploie Jésus. Il parle à ses disciples en disant « vous ». Il ne dit pas « ceux qui ne sont pas contre nous sont pour nous », il ne dit pas « ceux qui sont contre moi sont pour moi », il dit « ceux qui sont contre vous, ceux qui ne sont pas contre vous sont pour vous ». C'est pour vous que je parle, dit Jésus. Jésus se sort de la situation, il fait un pas pour sortir, se mettre à l'extérieur, et il vise les disciples. C'est vous qui êtes sur le terrain. Et il leur dit, arrêtez de vous chercher des ennemis. Des ennemis, vous en avez bien assez. Vous faites reculer les ténèbres et cela ne plaît pas. Les disciples ont des adversaires. Il leur a dit à d'autres occasions, celui qui n'est pas avec moi est contre moi et celui qui ne rassemble pas disperse. Il les a prévenus, vous serez persécutés. Et en lisant le Nouveau Testament, on voit qu'ils l'ont été, et certains jusqu'à la mort. Paul écrit à Timothée, « Tous ceux qui veulent mener une vie fidèle à Dieu dans l'union avec Jésus-Christ seront persécutés. » C'est une réalité concrète dans certains pays, mais dans notre pays également, ce n'est pas facile d'être un chrétien authentique. Celui qui n'est pas contre vous est pour vous. Nous devrions essayer de faire nôtre cette parole et de la vivre. Parce que c'est un réel bénéfice si on peut vivre cela. Si on peut ne pas être les uns contre les autres, savoir que les coups ne viendront pas des chrétiens, c'est toujours ça de prix. Nous avons aussi des ennemis. Jésus nous invite, ne nous trompons pas d'adversaire. Comment vivre cela? Quelques suggestions sur comment le vivre. Et voici les suggestions pratiques que je tirais dans ce contexte d'un culte inter-église rassemblant des chrétiens de diverses églises. La première chose, je pense qu'on peut appliquer facilement et pourtant, c'est ne pas dire du mal des autres chrétiens. Ne pas dire du mal pour les autres, des autres chrétiens, et en particulier quand on discute avec d'autres qui ne font pas partie des églises. Parce que pour quelqu'un qui ne fréquente pas d'église, nous sommes tous chrétiens. Peut-être que quelqu'un qui ne croit pas, sait qu'il y a des catholiques et des protestants. À la limite, peut-être a-t-il entendu parler des évangéliques, mais ça s'arrête là. Et si nous nous mettons à critiquer la chapelle voisine, alors on passe pour des clowns. C'est un contre-témoignage total. Faut-il rappeler cette parole de Jésus ? C'est à ceux-là que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Au contraire, plutôt que de dire du mal des autres, réjouissons-nous des bonnes nouvelles des autres églises. Telle église a un projet pour toucher la ville, prions avec elle. Telle église grandit, alléluia ! Et quelle surprise pour ceux qui nous entourent de nous voir nous réjouir du succès de ceux qu'ils voient comme nos concurrents sur le marché religieux. Quelle surprise de ne voir que nous ne sommes pas concurrents, mais ensemble. Ceux que nous servons ensemble, c'est l'intérêt de notre Seigneur et non l'intérêt de notre Église. À lui seul la gloire, toute la gloire. Deuxième chose, deuxième piste d'application, regardez et encouragez. On est tellement bon pour tirer des conclusions d'abord, poser un jugement d'abord et observer après. Quand on croise quelqu'un sur le terrain qui fait du bien au nom de Jésus, que ce soit pour chasser des démons ou pour faire autre chose, regardons. Observons. Même les disciples, qui dans ce récit sont quand même à côté de la plaque, ils ont su le faire. Ils ont vu que cet homme chassait les démons au nom de Jésus. Jésus a enseigné. C'est à son fruit qu'on reconnaît l'arbre. Plutôt que de se précipiter sur celui qui agit d'une façon inattendue pour nous, observons-le et évaluons le fruit qu'il produit. S'il glorifie Jésus, si c'est vers notre Seigneur qu'il pointe, alors même s'il ne marche pas avec nous, il n'est pas contre nous, mais pour nous, comme dit Jésus. Et du coup, plutôt que de chercher à l'empêcher, pourquoi ne pas l'encourager? Est-ce que ce ne serait pas une bonne façon de faire s'il est, comme le dit Jésus, avec nous? Et si jamais, sur tel ou tel point, il est dans l'erreur, il ne manquera pas de venir interroger celui qui l'a encouragé sans le juger. Ne pas dire du mal des autres, regarder et encourager. Troisième piste d'application de ce texte, agir ensemble. Oula. Si on n'est pas d'accord sur tout, comment on va faire pour agir ensemble, pour travailler ensemble? Pour nous décontracter, j'aimerais dire que ce n'est pas tout ou rien. Ce n'est pas on est pour, on fait tout ensemble, sinon ça veut dire qu'on est contre. Il y a tant de choses qu'on peut faire avec d'autres églises. On peut se positionner ensemble sur un sujet de société. On peut rencontrer ensemble les autorités pour peser plus lourd. On peut célébrer des cultes ensemble. On peut évangéliser ensemble. On peut mettre des locaux à disposition d'autres églises. On peut prier ensemble. Ça, c'est un point de départ qui est pas mal, en fait. Et j'aimerais mentionner que on le vit. C'est ce qu'on fait au niveau des jeunes avec les soirées Pulse ou les flambeaux. Plusieurs églises ont trouvé un terrain où, ensemble, elles œuvrent. Que pouvons-nous faire ensemble? Pouvons-nous collaborer ensemble sur tel ou tel sujet? On ne répondra pas toujours oui à cette question. Il y a des choses qu'on peut faire ensemble et il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire ensemble. On ne se sent pas toujours la liberté de faire ensemble. Et parfois, on ne voudra pas être associé à telle ou telle action parce qu'elle va trop loin dans une direction qui n'est pas la nôtre. Mais ce n'est pas parce qu'on ne peut pas tout faire ensemble qu'on ne peut rien faire ensemble. Ça, c'était les pistes d'application que je donnais lorsque je partageais dans ce culte inter-église. Mais j'ajouterais également quelques suggestions dans notre contexte à nous, où nous sommes une église qui nous réunissons entre les mêmes murs. En choisissant cette église, nous reconnaissons un attachement commun, une façon de vivre l'église qui nous est commune, un projet commun. Cette église n'est pas la seule à Clermont-Ferrand. Pourquoi la choisissons-nous? Pourquoi sommes-nous venus? Pourquoi y revenons-nous? C'est bon de se souvenir de ça parfois. Parce que nous ne sommes pas d'accord sur tout. Si nous savons ce qui nous rassemble, nous pourrons, je le crois, mieux accepter et pas faire d'efforts pour le suivre le mieux possible dans la voie qu'on a choisie, celle qui nous semble bonne, celle qu'on découvre à notre lecture de la Bible et à la réflexion qu'on engage dessus. Mais même si nous sommes appelés à agir avec conviction, je crois que ça nous pousse aussi à l'humilité. L'humilité de savoir que la vérité ne nous appartient pas. Nous la cherchons. Et cette humilité nous pousse à accueillir d'autres façons de faire jusque parmi nous. Parmi des gens qui ne se reconnaissent pas exactement dans ce qu'on porte comme projet, comme façon de faire l'Église. Accueillir d'autres façons de voir parmi nous. Regarder ce qu'ils font, les fruits qu'ils produisent, les encourager dans ce qu'ils font et faire ensemble. Quand nous sentons que nous pouvons nous retrouver. Et finalement, pour terminer, j'aimerais nous inviter à nous souvenir de l'espérance que nous avons qu'un jour, toutes les barrières tomberont, toutes les incompréhensions entre nous et toutes les mauvaises lectures de la Bible qu'on peut avoir. Tout cela tombera lorsque nous vivrons l'unité parfaite de la présence de Jésus-Christ. Et j'aimerais citer ma chère femme qui répète souvent cette parole de sagesse. Il faut qu'on s'entende sur terre parce qu'on va passer l'éternité à louer Dieu ensemble. Alors prenons de l'avance ici-bas. Seul. Est-ce que je peux t'inviter à venir le temps que je conclue ? Jésus nous dit, celui qui n'est pas contre vous est pour vous. Souvenons-nous de cette parole. Souvenons-nous de cette parole alors que nous pensons aux autres chrétiens, aux autres églises, alors que nous pensons même à ceux que nous croisons dans nos murs. Souvenons-nous que dans ce monde, ceux qui sont pour Jésus ne sont pas contre nous, mais avec nous. Ne nous trompons pas d'adversaire. Nous sommes pour lui, pour Jésus. Alors serrons-nous les coudes. Amen.